Alors, donc, je voudrais vous parler d'une population qu'on pourrait qualifier donc de décroissante, déconsommatrice, et qui, loin de faire état de privation, présente son mode de vie sous le sceau de l'abondance. Donc, pour ces alternatives du quotidien, on pourrait discuter sur la façon d'étiqueter ce genre de population. C'est à peu près une formule que j'ai trouvée consensuelle. Donc, qui vivent pour partie dans des maisons ou sur des terrains à la campagne en marge des petites villes, sans nécessairement vivre en communauté. Donc, sont privilégiés des modes tels que l'autoconstruction, l'autoproduction, la récupération, l'achat d'occasion, ainsi que la mise en commun d'objets. Donc, va s'élaborer une toute autre conception de la richesse et de la pauvreté, avec même une inversion des catégories ordinaires du luxe et du dénuement, puisque pour ces catégories de population, la modernité urbaine, anonyme, fondée sur la centralité des transactions monétaires, se retrouve comme intrinsèquement appauvrissante, puisqu'elle oblige justement à consommer. Donc je me suis posé la question justement de quoi ces partisans de l'utopie concrète qui décident de vivre écologiquement ici et maintenant autrement, de quoi vivent-ils? Comment peuvent-ils joindre les deux bouts? Et donc je me suis lancée dans une enquête qu'on peut appeler ethnocomptable, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En remontant, enfin en vous expliquant la genèse de ce projet. Donc tout d'abord, en fait, j'ai deux collègues, Alain Cotreau et Stéphane Bacchiocchi, qui sont en train d'écrire un ouvrage sur Frédéric Leplay, qui est donc un auteur du 19e siècle, dont un seul livre doit, je pense, être publié. C'est une monographie sur les Mélougas, et qui donc ils veulent le réévaluer comme l'un des entre guillemets des pères de la sociologie, notamment de l'ethnographie. Et donc en quoi cette enquête nous a intéressés? Tout simplement parce qu'en fait, des ingénieurs agronomes dans les années 1850 se sont attelés à la tâche d'étudier des budgets ouvriers, en fait, et ont réalisé des monographies pour invalider les principes de l'économie politique de Smith, qui était en controverse à l'époque, puisque Smith était en train de dire que la richesse des nations pouvait se mesurer en pièces sonnantes et trébuchantes, et que donc c'était l'unique moyen d'évaluer l'abondance nouvelle. Eux, de l'autre côté, se sont dit qu'il fallait absolument vérifier précisément que les ménages, et notamment des ménages ouvriers, avaient comme ressource principale des ressources en nature, précisément. Et donc, ils se sont livrés à une enquête gigantesque qui va jusqu'à l'Oural, jusqu'à l'Asie même, jusqu'en Chine, pour enquête de ménages ouvriers et paysans. Et donc ça constitue un document unique sur la vie quotidienne, avec un budget extrêmement détaillé. J'aurais aimé vous en montrer des éléments, avec un véritable travail comptable. Donc ils ont littéralement traité chaque ménage comme une petite entreprise, et ils lui ont attribué le même type de méthode que finalement au compte d'un État, comme la comptabilité nationale. Et c'est ainsi qu'ils ont pu mettre en évidence la manière dont le glanage, les droits d'usage dans les terrains communaux, le fait même de posséder des bêtes ou d'en avoir l'usage, faisait partie intégrante de l'équilibre budgétaire des ménages, et que donc, loin d'être un problème, le fait de posséder moins de liquidités monétaires pouvait au contraire être un atout. Et c'est ainsi qu'ils ont même, de façon assez scandaleuse pour l'époque, pu démontrer que des serfs qui habitaient au fin fond de la Russie vivaient finalement mieux que l'ouvrier londonien qui était un peu présenté comme une figure absolument presque enviable du point de vue de l'économie politique. Alors cette enquête a été relativement peu ensuite étudiée, alors peu en tout cas ensuite en sociologie. Alors même qu'elle posait les jalons de ce qu'on pourra appeler, de ce qui va être ensuite les enquêtes budget-temps qu'on va retrouver à l'INSEE, et puis ensuite les enquêtes sur le mode de vie. Et donc, Il s'est aussi passé entre-temps quelque chose d'énorme dans lequel nous vivons toujours, qui est que le processus d'industrialisation avançant, on a fini par considérer et stigmatiser, enfin plus exactement, le mode de vie paysan, et voire même, transformation maximale, de faire du potager vivrier ou de l'agriculteur un être de labeur, courbant les chines sur sa terre, sans s'être donné les moyens de vérifier aussi bien les modes productifs agricoles et leur forte productivité. Donc tout ça a été remisé aux oubliettes, l'économie politique a gagné. L'historien et sociologue du travail Alain Cottreau a exhumé ses enquêtes et a décidé d'appliquer une méthode qu'il a adaptée, mais très comparable à celle de Frédéric Leplay et de son collectif d'ingénieurs et d'agronomes sur une famille hispano-marocaine dans un ouvrage qui s'appelle Une famille andalouse. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre, donc qui est paru en 2013, il me semble, ou 2014. Et donc ils ont pris une famille hispano-marocaine qui vit sous le seuil de la pauvreté en Espagne, une famille de 4 enfants, un homme vendeur ambulant, une femme qui ne travaille pas. Et ils ont à 2 chercheurs, l'un vivant avec eux et puis Alain Cottreau étant au téléphone pour faire des bilans tous les jours et puis lui-même faisant beaucoup d'entretiens, ils ont enquêté sur le quotidien de cette famille et donc mis au point la méthode qu'on appelle, qu'ils ont appelée l'ethnocomptabilité. Donc c'est une ethnographie du quotidien qui consiste donc à partager déjà la vie des mêmes membres d'une même maisonnée et donc à faire un journal d'enquête extrêmement, extrêmement précis. Donc il y avait carrément l'enquêteur qui prenait des notes in vivo avec son ordinateur. Moi, c'était plus compliqué, je n'avais pas forcément toujours le courant de mon côté. Donc là, évidemment, c'était assez… donc ça, c'est un premier niveau d'enquête. Deuxième, une ethnographie, on va dire, comme assez classique. Mais ils ont ajouté à cette enquête ethnographique classique le fait de tenir un emploi du temps, donc de faire un emploi du temps qui leur a permis après d'obtenir des données permettant de comparer aux emplois du temps type INSEE. Ils ont ajouté également à ces éléments-là le fait de pouvoir glisser dans les moments creux des journées des questions comptables. C'est-à-dire, ils ont essayé de comprendre comment les gens comptaient. C'est-à-dire, comptaient leur argent, comptaient leurs ressources, comptaient leur temps, comptaient ce qui était bien, pas bien, cher, pas cher. Et à partir de là, leur objectif était donc de dresser un véritable bilan comptable des ressources de cette famille, les gains, les pertes. Et ce qui est très original par rapport à des enquêtes type INSEE ou autre, c'est que comme ils avaient l'enregistrement de ce bilan comptable en même temps qu'un suivi ethnographique, ils avaient à la fois des chiffres et les commentaires sur ces chiffres. C'est-à-dire que les gens pouvaient évaluer en même temps le sens donné à aux chiffres. Et à partir de là, l'idée, c'est de faire une anthropologie de l'évaluation de ce que c'est qu'une bonne vie. C'est en fait l'horizon de l'ethnocomptabilité qui donc intègre l'opération humaine assez ordinaire, qui fait qu'on se rend compte qu'on compte beaucoup, on compte du temps, mais en sortant du prisme unique des enquêtes statistiques qui ne vont voir que des chiffres pour y injecter un processus d'évaluation par les acteurs eux-mêmes du sens même que ces chiffres revêtent dans leur vie ordinaire. Ce qui fait que ce qui peut paraître cher du point de vue du sociologue ne l'est pas, etc. Et donc, comme méthode d'enquête, et puis dernier élément qu'ils ont ajouté, c'est qu'une fois qu'ils ont produit des éléments comptables, ils les ont resoumis à la famille sur laquelle ils ont enquêté pour qu'eux-mêmes continuent en fait à amender ces chiffres. Donc, c'est une véritable enquête collaborative qui va même impliquer les enfants qui vont eux aussi participer. Ça va consister, moi, ce que je n'ai pas fait du tout, aussi à peser les aliments, enfin à voir ça va assez loin. Ils ont mis une petite balance pour voir aussi, il y avait une dimension d'analyse nutritionnelle aussi hein, de cette famille qui vit sous le seuil de la pauvreté, et ils ont pu montrer qu'elle mangeait pour le coup parfaitement bien par des biais d'auto-production, etc. Donc c'est, l'autre élément, c'est que du coup, ça permet par poste à chaque fois de calculer par exemple des productivités du travail ménager, là aussi, hein, puisqu'on a du temps, puisqu'ils ont calculé du temps, et ils ont des sommes dépensées. Et ils ont fait des choses assez marrantes, hein, comme de calculer le temps de travail de Fatima, qui est femme au foyer, et qui finalement, à l'heure, gagne plus d'argent que son mari, qui vend des articles de cuir sur un marché, parce qu'il faut qu'il aille en voiture, il perd de l'argent avec l'essence, alors qu'elle, par tous ses bons tuyaux dans la ville, et tout son système d'entraide entre femmes, fait économiser beaucoup d'argent, en fait, à la famille. Et d'ailleurs, donc je ne vous fais pas le résumé de cet ouvrage, mais qui est absolument passionnant, et qui se présente d'une façon assez originale, parce que ça commence par la présentation du journal d'enquête, in extenso, enfin avec des coupes, 30 pages de tableaux comptables qu'on ne comprend pas si on n'a pas lu le journal d'enquête, et enfin une analyse. Et l'idée de ce type d'enquête ethnocomptable, c'est de livrer aux chercheurs, aux lecteurs, la possibilité de la contester. C'est-à-dire qu'ils donnent des sources, et on peut réinterpréter aussi. C'est donc aussi une question de revendication, de mise à disposition de données, ce qu'on peut faire aussi hein, avec les enquêtes de Frédéric Leplay du 19e siècle, puisqu'ils donnent tous leurs tableaux comptables, ils ont des interprétations historiquement datées, mais on peut à partir des mêmes données retravailler, étant donné la finesse. Voilà. Donc moi, quand il se trouve que Alain Cotreau est dans mon laboratoire, et quand j'ai vu qu'il travaillait de cette manière-là, et que moi, de mon côté, j'avais accumulé à peu près 80 récits de vie sur des alternatifs dans différentes régions de France, j'ai trouvé que cette méthode pouvait assez immédiatement être utile pour ma recherche. Tout simplement parce qu'en fait, quand je commençais à évoquer ces résultats il y a 5-6 ans, dans des petits cercles, une question récurrente venait qui est « mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ces gens, ce n'est pas des rêveurs? Est-ce qu'ils ne vont pas s'écrouler du jour au lendemain? Et s'ils ont un accident? Et ils sont quand même très subventionnés par leurs parents, on imagine. » Enfin, il y avait vraiment toute une… Et est-ce qu'il n'y aurait pas un leader charismatique qui viendrait détruire le groupe s'il y a une communauté? Enfin, je me retrouvais en fait face à une série d'images en fait héritées hein, tout droit aussi de ce qu'on a pu dire et ce qu'on peut penser des communautés des années 70, qui fait que vivre autrement, c'est forcément ne pas être réaliste, avoir un autre, vivre dans un marché économique parallèle, ce n'est pas durable. Et donc j'avais besoin d'apporter d'autres preuves en fait que celles du récit. Et donc, je me suis lancée dans une étude microéconomique aussi, non pas parce que mes enquêtés, par exemple, avaient besoin de preuves. Eux, pour le coup, savaient très très bien que c'était la bonne. Ils étaient dans une vie bonne, une bonne vie. Non pas que moi-même, pour le coup, puisque quand on passe un certain temps sur le terrain d'enquête, on finit soi-même aussi par voir qu'on n'est pas face à un champ dévasté. Enfin, le bien vivre dans certains terrains, pour avoir travaillé sur les policiers par ailleurs, c'est quand même des choses qu'on peut mesurer soi-même en tant qu'enquêteur. On voit bien des terrains où les gens ont l'air plutôt bien et des terrains où les gens ont l'air plutôt mal. Mais ça, encore une fois, ça paraît très, très imprécis. Et donc, même par, ne serait-ce que sur le plan culinaire, hein, il n'y a pas meilleure preuve qu'un pain, quelques pains que j'ai pu goûter. Mais je ne peux pas vous les apporter. Donc, d'ailleurs, le temps que je vous les apporte, non mais voilà, donc tout ça, c'était aussi pour sortir du régime aussi de la suspicion de l'engagement, le sociologue qui serait tellement sympathique avec son terrain, etc., etc. Donc je me suis rentrée dans quelque chose qui est absolument redoutable en termes de coût d'entrée et de traitement des données, qui est donc l'étude ethno-comptable, qui fait que je voulais faire sur chacun de mes terrains d'enquête une famille. Je me suis réduite à une seule, parce que déjà une, je m'en sors pas, donc c'est extrêmement long comme travail, et donc j'aurais voulu vous montrer quelques éléments de tableau, mais ça ne va pas être possible, je pense. Ça va pas marcher. Pourquoi faire cette étude ethno-comptable? Donc j'en reviens aussi, donc là je vous ai donné des raisons aussi d'administration de la preuve, et je pense que c'est extrêmement extrêmement important. Mais il y a aussi des raisons liées au type même mode de vie étudié, qui est que la méthode ethno-comptable, vu qu'elle appréhende le mode de vie d'une véritable continuité entre les sphères dites professionnelles, les sphères dites domestiques ou les sphères publiques, puisque tout ça est appréhendé comme un ensemble, pour étudier des partisans précisément de la fin d'une forme de division du travail et de séparation extrême des sphères, et qui font justement, pour reprendre les termes de Michel Daubré, de la résistance ordinaire au quotidien, et qui font du quotidien le théâtre de l'action politique, c'est-à-dire que le politique n'a pas une sphère à part, il rentre précisément dans cette vie quotidienne. L'ethno-comptabilité paraissait absolument parfaite pour mesurer ce genre de déplacement autour de la célèbre division d'Hannah Arendt entre travail, œuvre et action politique, puisque là, justement, c'est des populations qui cherchent à faire converger ces trois éléments. Il y avait aussi l'idée que la statistique publique, qui de toute manière ne s'intéresse pas et ne peut pas, enfin n'investigue pas les populations qui, moi, m'intéressaient, puisqu'une partie peut être effectivement nomade ou vivre en habitat léger, ce qui n'est pas la cible de la statistique, on ne pouvait pas non plus se contenter, abandonner l'entreprise de comptage statistique et de mesure et la laisser uniquement à des institutions publiques qui évidemment sont sur tout autre échantillon. Donc il y a aussi quelque chose, non pas simplement à faire du côté d'une meilleure description statistique, mais aussi d'inventer d'autres outils qui ne seraient plus à l'échelle de grands échantillons, mais à l'échelle de budgets familiaux. Donc ça aussi, puisque ça c'est des critiques connues des enquêtes budget temps, mais notamment par exemple les enquêtes budget ne comptabilisent que des transactions en fait marchandes, ne s'intéressent pas du tout au stockage, au réemploi d'objets. Voilà, donc c'est typiquement quelque chose qui est pourtant absolument fondamental quand on veut étudier des pratiques alternatives. L'autre chose, c'est que d'étudier de façon monographique un budget, en fait, et donc surtout un groupe d'individus vivant au même endroit, c'était aussi une façon de sortir de l'aporie de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'idée qu'à partir du moment où on a un mode de vie écologique, qu'on affirme en tout cas un projet écologique, il y a toujours le principe de cohérence qui est mis en avant. Et du coup, parfois une description un peu dichotomique qu'on peut voir dans certaines analyses sociologiques qui diraient par exemple que les pratiques écologiques sont réservées à des bobos plutôt riches, aisés, classes supérieures, et que donc évidemment que ce ne serait pas transportable pour des classes populaires gagnant peu, ou alors que ce serait toujours dans le même ordre d'idées un type de consommation ponctuelle qui serait complètement contradictoire puisqu'on ne peut pas, on est toujours pris dans la consommation de pétrole par exemple. Donc en fait il y a toujours la présomption d'immenses incohérences ou de grands coûts de ce mode de vie qui serait plus respectueux de l'environnement. Or, moi, il me semblait que ça demandait à être vérifié, en fait, tout simplement. Vérifié empiriquement, c'est-à-dire, là encore, de sortir d'images toutes faites pour réellement mettre au point un calcul serré des rentrées et des sorties d'argent dans ce type de ménage. Ça permet aussi, et c'est ça aussi le plus important, de tordre le cou à l'horizon en fait, qu'il y a derrière ce genre de critique, qui est l'horizon quasi d'une utopie insulaire et autarcique. C'est-à-dire qu'on a dans l'idée que vivre écologiquement, c'est donc se retirer du monde Or là aussi, hein, ça ne résiste pas une seconde à l'enquête empirique. D'ailleurs, qui peut se permettre de sortir du monde? Même les moines n'en sortent pas. Donc c'est là aussi, c'est évident que c'est les populations locavores intégrées, qui utilisent les routes publiques, qui vont avoir des liens avec des institutions. Et donc c'était assez important de montrer toutes les marges de manœuvre possibles en raisonnant en termes de transition écologique et non pas en termes de sortir du monde capitaliste ici et maintenant. Voilà. Et donc, si on a plutôt dans l'idée qu'il y a un monde industriel, que certaines populations essaient de bricoler avec ce monde industriel, on compte et on voit, enfin, évidemment qu'on voit bien que ce sont des populations qui, tout aussi avancées soient-elles dans des formes de radicalité, restent néanmoins extrêmement prises dans un monde marchand dont elles ne peuvent pas s'abstraire. Donc déjà, c'est aussi, c'est ce que j'ai vu très rapidement, puis c'est ce qui s'observe rapidement, mais c'est un point important parce que du coup, ça évite aussi le processus de disqualification a priori, la politisation de ces gestes, puisque de toute manière, ces gestes ne peuvent pas être purs. Ils sont nécessairement intégrés à un monde, industriel. Voilà. Alors maintenant, donc comment faire pour choisir un ménage ? Donc déjà, je ne choisis pas tellement un ménage plutôt qu'une maisonnée. Moi, j'aime bien l'idée au sens anthropologique du terme, c'est toutes les personnes qui vivent à cet endroit-là. Il se trouve que là, je n'ai pas échappé à des choses classiques. Je suis retombée sur un ménage, un couple hétérosexuel avec un enfant. Mais il se trouve qu'il y a eu d'autres habitants sur ce lieu, qu'ils hébergent aussi des copains. Donc, je ne les ai pas forcément pris en compte dans l'enquête. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de... une maisonnée, on tombe sur 50 personnes. Alors pour tout dire, moi j'ai fait l'enquête en sens inverse. J'ai d'abord enquêté sur ce groupe, ces gens qui vivent sur un territoire que j'ai appelé Valonde, puisque j'ai un enjeu fort d'anonymisation, puisque plus on, notamment sur ce ménage-là en particulier, il n'est pas souhaitable qu'on puisse les identifier. Donc j'ai d'abord enquêté, hein, puisque j'avais enquêté sur différents lieux en France où il y avait une forte densité de gens alternatifs en zone rurale. Oui, j'ai oublié de préciser que je travaillais uniquement en zone rurale. Dans ce réseau de gens, j'avais fait une vingtaine d'entretiens. Après, j'en ai refait une dizaine. Je me suis dit, tiens, Laurent et Marie, 38 ans, 37 ans, ils vivent en yourte avec leur fille qui est âgée de 3 ans. Ils sont boulangers et paysans. Ils ont une petite tour de 30 mètres carrés qui est reliée à un panneau solaire. Ils n'ont pas l'eau courante. Laurent a le baccalauréat. Marie a fait un IUT. Ils ne prévoient pas de reprendre leurs études. Ils ont toujours vécu à la campagne. Vivent depuis 2004 sur le même terrain qu'ils ont progressivement acheté, hein, en passant maintenant à un nombre d'hectares assez conséquent, jusqu'à l'usage de 18 hectares, alors qu'ils n'avaient rien au départ. Hein, donc ils possèdent 2 vaches, 2 chèvres, 4 brebis, un poulailler conséquent, 12 ruches, un potager qui leur permet d'être autonome 10 mois sur 12. Ils cuisent, ils pétrissent à la main et cuisent au feu de bois et vendent eux-mêmes au marché du pain. Et ils ont une fournée bi-hebdomadaire. Donc, c'est leur seule ressource. Ça ferait rêver tous les boulangers s'ils pouvaient travailler que 2 jours par semaine. En tout cas, eux, c'est leur modèle, entre guillemets, économique. Et donc, ils gagnent. Alors ça, c'est au terme de mon enquête ethnocomptable. Je ne le savais pas au départ. Et puis, eux-mêmes, je pense, n'étaient pas capables de le dire. Mais en gros, ils gagnent 1400 euros par mois, à 3. Donc voilà, ça je vous donne la conclusion, mais qui est le résultat de... 2 ans d'enquête avant de savoir combien ils ont par mois. Donc évidemment, selon les critères aujourd'hui, hein, le seuil de pauvreté est estimé à 1764 euros en 2016, hein, pour 2 adultes et 1 enfant. Donc ils vivent théoriquement en dessous du seuil de la pauvreté, et il est évident que ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête en les interrogeant, et eux encore moins, puisqu'ils estiment être riches. Hein, ils estiment être absolument riches, riches. Comme ils disent, on a un salon qui fait 2000 mètres carrés, nous, ce qu'ils vivent beaucoup en plein air. Ce qui était intéressant pour moi, pourquoi je les ai choisis, c'est parce qu'ils avaient une activité absolument vivrière très développée, assez aboutie, et qu'ils avaient une activité artisanale pas à plein temps. Et qui vivait depuis 8 ans comme ça aussi, avec une expérience antérieure de 5-6 ans, chacun de leur côté, de baroudeur et de vie plus ou moins communautaire. Donc ils s'étaient assez précocement et jeunes installés dans ce type de mode de vie. Et là, avaient. Voilà, donc je trouvais quand on définit, parfois on peut définir les ménages comme des entreprises, entre guillemets, quelque chose qui dure depuis 8 ans, quand on voit la durée de vie de certaines entreprises, c'est beaucoup. Voilà, en fait, par rapport au monde privé. Voilà, donc c'était pour moi aussi un point important qu'il y ait une profondeur, entre guillemets, de temps relativement suffisamment grande pour qu'eux puissent m'expliquer l'histoire, en fait, de la manière dont ils avaient constitué progressivement leur exploitation, puisqu'ils ont une ferme atypique. C'est ainsi qu'on désigne quelque chose qui est en fait assez vieux comme le monde, puisque pendant longtemps, les paysans étaient dans des situations atypiques. Donc eux, ils n'ont pas de table, pas de hangar, des vaches de plein champ. Ils vivent dans une yourte, ils ont une sorte de ferme en habitat léger, donc ils n'ont pas de bâtiment en dur. Et par ailleurs, pour le groupe, puisque j'aurais pu très bien travailler, il y avait des gens très bohèmes, extrêmement nomades, et pour le groupe d'entraide et de copains alternatifs du coin, ils apparaissaient comme sérieux, entre guillemets. Donc je voulais aussi prendre un groupe, un ménage qui, entre guillemets, qui me permette de faire qui me permettrait aussi de présenter ce que différent d'une population qu'eux appellent perchés, par exemple. Voilà, c'était aussi. Pour vous dire les types de désignations qu'ils ont entre eux. Donc, pour Laurent, se désigne comme Baba Speed, par exemple. Pas Baba Cool, mais Baba Speed.
Voilà.
Baba Speed, voilà. Parce que bon, voilà, c'est pour dire parce qu'ils sont très, très actifs, alors que dans leur groupe amical, il y en a qui ont une vie beaucoup plus, je dirais, de l'ordre de la deep ecology, beaucoup plus planante que la leur. Eux, ils sont paysans. Voilà, et paysans avec des formes quand même, l'emploi du temps, le nombre de kilomètres qu'ils font par jour, la polyactivité, tout ça, c'est des choses sympas. L'autre raison pour laquelle j'ai pu travailler, qu'une fois que je les avais choisis, il fallait qu'ils acceptent. Ce n'était pas non plus gagné. Parce que c'est quand même assez lourd. Je n'ai pas fait énormément de séjours parce que c'est en fait, je tiens concrètement que 4 jours d'affilée à prendre des notes. 12 heures par jour à poser des questions. Et après, j'ai plus de mains, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus de. Et puis, je dois manger, je dois faire des choses avec eux en même temps. Donc, c'est sur le plan du type d'enquête, c'est assez. C'est des journées extrêmement remplies. Puis après, en traitement de données, pour 4 jours, j'en ai pour 2 mois. C'est monstrueux, en fait. Tout ce qu'on recueille, c'est en fait le contraire de ce que l'écologie. Hein, c'est de la sociologie intensive et pas du tout extensive. Mais bon, c'est quelque chose dont on est un petit groupe, en fait, de doctorants. Enfin, moi, je ne suis pas doctorante, mais de chercheurs à travailler l'un sur une famille qui vit, en fait, dans un hôtel d'accueil pour montrer que ça coûte cher d'être soi-disant hébergé par l'État. Enfin, on est plusieurs comme ça, donc on s'entraide énormément sur le plan des méthodes et des conditions de possibilité des enquêtes ethnocomptables, parce que c'est en fait assez, assez lourd. Donc Laurent et Marie ont accepté tout de suite. Ça tient à leur curiosité, mais ça en dit long. En fait, je ne doutais pas qu'ils n'accepteraient pas. Enfin, j'étais sûre qu'ils accepteraient. Parce qu'en fait, les plus engagés dans la réforme de leur quotidien n'ont pas la possibilité de militer de façon exemplaire en allant à toutes les manifestations, en s'engageant de façon très, très importante et poussée dans de nombreuses associations qui seraient représentées à l'échelle nationale. Au mieux, c'est à l'échelle locale. Et en fait, donc, ils ont un militantisme de quotidien qui leur prend énormément d'énergie. Et donc, ils sont extrêmement hospitaliers. Hein, c'est un type de terrain d'enquête où on est logé, nourri, accueilli à bras ouverts, parce qu'en fait, la démonstration de son mode de vie et le partage de ce mode de vie fait partie de la conversion politique. Et donc, ils font visiter en permanence, en fait, par exemple, leur installation. Il y a toujours des copains qui viennent avec d'autres copains, qui sont curieux, qui viennent voir comment ils vivent. Hein, donc ils acceptent en quelque sorte d'être transformés en sorte de zoo. C'est le contraire des zoos coloniaux involontaires. Eux, c'est vraiment, ils se mettent eux-mêmes, non pas en cage, mais en tout cas, ils venez, donnez-vous la peine de venir, on vous accueillera à bras ouverts, on vous montrera comment on vit. Donc moi, je savais qu'il n'y aurait pas de souci pour faire ce genre d'enquête, parce que ça fait, c'est pas juste Laurent et Marie, c'est tout un mouvement qui est fondé là-dessus, et j'avais écrit un article sur les chantiers participatifs qui montre ça, qui est une autre façon. Donc ils sont en mode démo, si je puis me permettre, un peu constant. Voire même, ils disent, c'est une réussite pour nous, en fait, que tu viennes nous voir. Ça prouve, pour nous, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas vain et que ça peut être diffusé. Et donc, eux, ça les intéresse pas du tout, ce que moi, je vais trouver pour eux, mais ça les intéresse pour les autres. Enfin, c'est pas... puisque eux, ils savent qu'ils joignent les deux. Pas besoin de mon enquête pour savoir qu'ils s'en sortent, alors qu'ils connaissent même pas le nombre de poules hein, qu'ils ont. Donc, tout ça pour dire que... voilà. Donc, alors... C'est aussi un marqueur politique, parce que j'ai enquêté par ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, et autant dire que la position dans d'autres mondes militants, plus autonomes qu'écolos, il y a un véritable rejet en fait, hein, du sociologue, et jamais j'aurais pu faire ce genre de choses. Ce type d'enquête, puisque le sociologue est considéré à la solde de l'État. Et donc là, ça veut bien dire que je suis face à une population qui n'est pas en rupture hein, ou en scission, en fait, avec le monde intégré, mais qui est plutôt dans l'idée que pour attirer des gens du côté de leur alternative, il faut les convaincre de ce bien-être. Et donc les portes sont grandes ouvertes. Ce qui fait que ce n'est pas exactement les mêmes populations, en fait, hein, qui acceptent, enfin, dans ce monde militant-là, qui peut accepter l'enquête ethnocomptable. Justement parce que Laurent et Marie sont entre deux mondes. Un monde, ils sont entre le monde de la certification agriculture biologique, par exemple, le capitalisme vert, le système bancaire, les subventions agricoles, qu'ils rejettent. Mais ils ont des amis qui sont quand même dans ce monde-là. Voilà. Ils ont un réseau d'agriculteurs. Laurent est à la Confédération paysanne. Il refuse les subventions, mais il est à la Confédération paysanne. Et dans la Confédération paysanne, il y a tous ces gens qui sont pour l'agriculture, enfin qui sont dans un autre type de démarche écologique, en fait. Donc, il fait le stage, par exemple, pour avoir le statut d'agriculteur, mais il ne veut pas la dotation jeune agriculteur pour éviter d'avoir quelqu'un qui va contrôler, puisque quand on touche une subvention de l'État, quand on est agriculteur, ça veut dire qu'il y a un contrôle de l'État sur la façon dont on dépense son argent, notamment, ils n'achètent que de l'occasion. Quand on est agriculteur et qu'on va toucher une subvention, il faut tout acheter neuf. Donc, enfin, voilà, donc ils ne peuvent pas rentrer dans ces cadres. Donc, ils sont typiquement entre deux mondes. Et donc, en fait, ils produisent aussi des données chiffrées en préparation de dossiers à la Chambre d'agriculture que finalement ils ne vont pas faire. Mais voilà, donc ils sont vraiment à la charnière. Donc ils ont des méthodes de comptage, ils discutent, ils arbitrent. Et puis par ailleurs, hein, encore une fois, la démarche ethnocomptable, elle renvoie à des aptitudes humaines assez développées, notamment chez les gens qui ont peu d'argent. C'est-à-dire que ça a été pas mal montré. Et puis l'enquête d'Alain Cottreau sur la famille hispano-marocaine et le montre de façon très, très saillante. C'est ne pas avoir d'argent, ça veut dire calculer tout le temps, justement. C'est vraiment... Donc eux, de toute manière, sont aussi quand même dans des formes de rationalisation hein, de ce qu'ils peuvent dépenser, pas dépenser. Il n'empêche que faire une étude ethnocomptable sur les alternatives de ce type, ça, c'est pas sans malaise. Parce que c'est ajouter des opérations de quantification dans des modes de vie qui dénoncent justement la prolifération néolibérale des outils de quantification à des fins de contrôle et de standardisation. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le paradoxe, il est assez énorme. Il y a d'un côté Laurent et Marie qui vont être hostiles au puçage électronique hein, des brebis et des chèvres, qui refusent le statut d'agriculteur pour ne pas rentrer dans les canons imposés. Puis moi, de l'autre côté, je fais une étude comptable sur combien ils dépensent, etc. Et donc, le danger évidemment principal, c'est notamment de donner des équivalents marchands aux ressources en nature. C'est ce que font les ouvriers, l'enquête, Frédéric Leplay, hein, au XIXe siècle, fait ce tour de passe-passe permanent, mais il le précise, hein, il s'est précisé, qui est que quand il y a des œufs de poule d'un poulailler ouvrier qui est très très important, on comptabilise combien, en fait, comparativement à ce que coûterait un œuf au même endroit, ils gagnent en produisant eux-mêmes leur... leurs œufs. Donc là, c'est quand même requantifier quelque chose qui n'a pas de prix, par exemple, pour reprendre des formules, justement. Et pourtant, ils ont accepté. ils ont accepté parce que, comment dire, ils savent bien que le gain que je vais pouvoir mettre en évidence n'a pas de prix. Justement, que c'est hors d'un calcul possible, et voire même le temps, comment mesurer du temps, ce qui compte, c'est la qualité du temps. Il y a aussi tout le danger de croire que tout ça peut être mis en recette. Et c'est une controverse très connue, hein, dans le monde militant scientifique qui travaille sur des questions environnementales. Est-ce que la nature est un bien incommensurable? Peut-on la quantifier? Est-ce qu'on ne va pas arriver à une conception utilitariste de la nature? Ce qui fait que si on met des équivalences marchandes, on va pouvoir faire des services, des paiements pour services environnementaux. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans notre monde de chercheurs, mais aussi dans un certain monde militant. Je précise tout de suite que Laure et Marie ne sont pas des intellectuels, ne connaissent pas, ne lisent pas ces ouvrages-là, s'en moquent pas mal. Mais il n'empêche que tout ça traverse ces mondes-là. Et le projet, c'était qu'évidemment, je ne fournisse pas que des tableaux, ce qui était le cas. J'ai pour l'instant 200 pages de récits d'enquête que je voudrais pouvoir publier in extenso sur 9 jours, juste. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on ne fait pas... ce qui compte d'abord, c'est le compte-rendu ethnographique. Les tableaux, c'est une autre façon, une autre forme. Et c'est un petit peu là-dessus que je finirai pour essayer de vous dire, avant de vous expliquer ensuite la méthode ethnocomptable, pourquoi j'ai fait une étude ethnocomptable. C'est que tout simplement, la méthode ethnocomptable, qui est donc prise dans cette double impasse, hein, on comptabilise des choses, mais on les comptabilise au risque de les réduire, de les métamorphoser, de leur faire perdre même le sens, hein, de ce qu'on compte. Mais en même temps, c'est tout simplement une autre forme de mise en mots, puisque c'est des tableaux très bavards, pour le coup, avec quelques chiffres, mais beaucoup, beaucoup d'explications dans les tableaux que j'aurais bien voulu vous montrer. Et il s'agit vraiment ici de reprendre le sens, de réencastrer aussi bien les chiffres que l'économie dans la sphère politique et du mode de vie en général. Voilà. Et voilà. Et donc, Laurent et Marie ont très, très bien compris la force persuasive que ça pouvait être de pouvoir aussi bien donner du texte à lire sur le mode du récit ethnographique et que pour d'autres, qu'un tableau, des différents tableaux synthétiques de leur mode de vie. Voilà. Alors maintenant, comment... donc, j'aurais bien aimé vous... comment ? Oui, mais on aurait pu imprimer et puis j'aurais pu vous faire passer. Mais alors comment maintenant je vais essayer de détailler un peu plus le. Je ne sais pas combien de temps j'ai en fait. Ah oui, d'accord. Alors du coup, je vais vous présenter très peu de résultats. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est avant même de revenir à l'étude ethnocomptable, c'est qu'une étude ethnocomptable. C'est aussi une étude de réseau. Alors, j'aurais pu vous montrer la carte du réseau. C'est des réseaux en face à face, principalement. C'est pas des gens qui sont dans le virtuel, même s'ils ont beaucoup, ils sont des ordinateurs. Mais pour comprendre comment fonctionne cette économie très très locale d'artisans, agriculteurs et de gens qui sont aussi dans des professions artistiques, le choix du lieu Enfin, vivre autrement comme Laurent et Marie, ça implique de ne pas s'installer n'importe où et à côté de n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est que avant même de commencer à essayer de comprendre comment ça marche, un budget, il faut comprendre que la condition principale de la viabilité avant même d'essayer d'avoir un poulailler, etc., c'est juste d'être entouré d'un réseau d'entraide qui ne vous met pas dehors. Enfin, donc je vous donne des explications simples. Donc là, ça, j'ai pu le mettre en évidence en faisant des récits de vie avec l'ensemble du groupe, enfin, qui vit de façon dispersée dans la campagne, dans un rayon de 20 km², tantôt dans des cabanes, des roulottes, des maisons en dur, des gîtes. Ça bouge tout le temps. Ils bougent sans cesse d'endroits, mais tout ça dans un petit périmètre. Et en fait, le point le plus important qui permet à ce type de groupe d'évoluer, c'est de disposer d'un réseau qui n'est pas proprement alternatif, mais d'un réseau de soutien des alternatives, qui ne vit pas, lui, alternativement. Et donc... Donc, par exemple, un maire fort sympathique qui ne va donc pas procéder à des expulsions ou ne va pas, de personnes qui vivent tout simplement de façon illégale sur des terrains agricoles où on n'a pas le droit de vivre en résidence principale. Donc, premier critère, c'est c'est évidemment de s'assurer. Donc, ça implique aussi que l'alternance politique continue de pérenniser ce genre de choses. Et eux, ça fait effectivement 15 ans. Que dans ce petit périmètre de 20 km², les différents maires successifs des différentes communes sont pas ravis, mais en tout cas ont une tolérance très grande à l'égard de ces gens qui vivent autrement. Dans d'autres terrains d'enquête, j'ai pu voir que là où il n'y avait pas cette tolérance, tout le monde plie bagage et on va ailleurs parce qu'il y a des véritables chasses aux sorcières et traques aussi de ce genre de personnes. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important. Et c'est des réseaux très singuliers. C'est aussi bien des réseaux d'agriculteurs bio, par exemple. C'est aussi des réseaux religieux, des catholiques de gauche, des protestants de gauche. Ça dépend des endroits sur la carte de France. Et aussi des lieux où le Front National est peu implanté. Donc c'est pas toutes les campagnes rurales. Donc là aussi, mais ça encore, c'est très micro-local. Hein. Sur ce terrain-là d'enquête, je ne l'ai pas vu, parce que c'est une région vraiment traditionnellement pas du tout d'extrême droite. Mais dans d'autres régions, ça dépend d'une ville à l'autre. Hein, donc ça, c'est aussi un autre élément décisif pour que ce type d'alternative puisse se perpétuer sur un même territoire. Autre point très très important, c'est que il y a des initiateurs, des pionniers qui commencent ce genre d'aventure. Et là aussi, pour moi, il est extrêmement important de sortir de la vision catastrophiste qu'on peut trouver dans le livre de Bernard Lacroix qui s'appelle « L'utopie communautaire ». Il y a Daniel Hervieux-Léger qui a fait un très beau livre sur les communistes des années 70. Puis il y a eu Bernard Lacroix aussi. Mais qui lui a fait un livre très, très singulier, puisqu'en fait, à partir du moment, puisque lui, il parle d'échec, il étudie les groupes sur le mode réussite-échec. Et les critères de la réussite, c'est en fait l'institutionnalisation ou la pérennisation du groupe selon des formes groupes qui, en fait, ne correspondent pas du tout, en fait, au type de groupe que ces populations veulent élaborer. Donc, j'essaie de m'expliquer un peu plus précisément. Daniel Hervieux-Léger disait... Je suis partie voir des communautés, puis j'arrive, elles se sont diluées, il y a un leader avec un chef, entre guillemets, charismatique, ils se sont tous fâchés. Et donc, on peut dire assez rapidement, terminé, il n'y a pas eu d'expérience communautaire, en fait, c'est un échec, puisqu'ils sont tous repartis. C'est l'image qu'on a du Larzac, on va élever ses chèvres, et puis on repart en courant, parce qu'on est tombé sur des pratiques autoritaires, ou qu'on n'a pas résisté au premier hiver. Or, quand on étudie un groupe avec son mode du récit de vie, et qu'on les voit raconter aussi, ce qu'ils faisaient 10 ans auparavant, etc. C'est extrêmement intéressant de voir qu'au contraire, si on s'attend à voir des groupes constitués, on manque complètement la condition en fait, de survie de ces groupes, qui est précisément de se redisséminer sur le territoire tout le temps. Donc en fait, effectivement, si on cherche un groupe, on ne le trouve pas. Une communauté de départ, on dit, ah bah oui, il n'y a plus cette communauté. Mais en fait, les gens n'ont pas... Une partie est partie, une autre est arrivée, mais ils sont pas partis, en fait. Ils ont juste acheté une maison là, ils ont mis une cabane ici, ils sont dans l'association là, ils sont mariés avec un autre là-bas. Enfin bref, et donc le groupe, il y a toujours un groupe, en fait, mais c'est juste pas la forme communauté. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et justement, là, j'ai pu analyser la force des liens d'amitié. En analysant comment le réseau fonctionnait. Et ce qui fait que le réseau fonctionne notamment, c'est que même quand il y a des personnes charismatiques qui sont très pionnières et avec qui tout le monde se fâche, effectivement, en général, ce qui est très intéressant comme dans la façon dont fonctionnent les groupes, c'est est-ce que quand on est fâché avec cette personne-là, on est fâché avec tout le groupe. C'est toujours un critère, hein, clanique. Si j'étais fâché avec le, entre guillemets, le chef, tout le reste. Et là, on peut se fâcher tout le temps avec quelqu'un sans jamais être fâché avec tout le groupe. Enfin, ça paraît, c'est juste un fonctionnement très non clanique, justement, qui est absolument indispensable, en fait, pour la survie de ces groupes d'entraide. C'est-à-dire que les ennemis de mes amis ne sont pas mes ennemis. Et donc ça, c'est vraiment absolument fondamental. Alors certains sont un peu cyniques, disent effectivement, on n'a pas le choix, de toute manière, on est un petit monde, si on commence à se fâcher avec tout le monde, autant disparaître. Donc il y a aussi des contraintes matérielles. Hein. Mais ça, c'est vraiment... donc c'est extrêmement intéressant d'avoir comme ça une perspective sur 10 ans. Et les groupes qui, effectivement, ne fonctionnent pas de cette manière-là, disparaissent. Voilà, donc voilà. Alors ensuite, ça, c'était des conditions de possibilité... en dehors du mode de vie, mais qui le conditionne énormément. Oui, l'autre groupe, l'autre chose absolument déterminante dans ces groupes, c'est le système d'entraide. C'est-à-dire que pour pouvoir financer un mode de vie décroissant, il faut passer notamment par des structures d'hospitalité gratuites. Et donc, et ce qui est très facile à la campagne, parce que les terrains sont grands, on peut toujours poser un camion dans le fond du terrain d'un copain sans trop le déranger, ce qui permet de ne pas payer de loyer d'avoir un travail saisonnier, d'accumuler de l'argent avec des dépenses extrêmement réduites. Et c'est exactement ce qu'ont fait Laurent et Marie. Ils l'ont fait et ils le font pour d'autres. Hein, donc il y a un système d'hébergement réciproque. Et comme c'est des groupes qui bougent énormément, l'hospitalité sans façon... et inconditionnel, en fait, fait vraiment partie, qu'on a du mal à faire hein, dans nos mondes plus bourgeois, en fait, hein, où recevoir, c'est quelque chose. Là, on n'est pas en mode réception, je mets les petits plats dans les grands, hein, c'est tu prends un bout de canapé si tu as envie, de toute manière, tu viens m'aider là. C'est tout un système aussi de dons et d'échanges de services contre hospitalité. Et ça, c'est vraiment aussi très, 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 très important. Alors, ensuite, comment je pourrais développer différents points, mais je ne vais peut-être pas... y arriver. je voulais vous montrer comment ils avaient réussi à acquérir... c'est de cette manière-là, par exemple, qu'ils ont pu acquérir de la terre, c'est-à-dire acheter de la terre agricole, outre le fait que c'est compliqué parce qu'il faut passer par des séries de commissions qui font que tout le monde ne peut pas... il y a un processus de sélection pour acheter de la terre agricole, mais il y a tout simplement de l'économie d'argent qui est faite du fait de ne pas avoir, par exemple, de loyer. Donc moi, j'ai pu mesurer combien d'argent on économisait en étant hébergé, en fait, tout simplement. Et donc, en n'ayant pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau. Et donc, qui fait qu'on va, par exemple, chez ses parents se doucher. Là, il y a effectivement tout un système d'aide et donc de lien entre ceux qui ont une maison en dur et ceux qui n'ont pas de maison en dur. Voilà. Et donc, d'accepter des régimes de confort plus ou moins distincts du fait même de la possibilité à tout moment de pouvoir repartir sur des gens qui habitent dans des maisons en dur. L'autre chose extrêmement importante, donc l'acquisition par exemple, ça peut paraître là aussi paradoxal par rapport à des groupes qui pourraient se revendiquer comme rejetant des formes marchandes de vouloir acheter une terre. Mais là aussi, ça fait partie du réalisme complet de cette nouvelle génération de, je ne sais pas, comment on pourrait les appeler, l'alternative en tout cas, qui est que acheter la terre, c'est la possibilité d'organiser des formes d'occupation libres, justement. Donc c'est en fait là par exemple, on n'est pas du tout dans l'idéal des communs, ou, enfin c'est pas ça qui va être mis en place, c'est chacun essaie d'acheter un bout de terre, pas loin les uns des autres, et c'est ce qui va permettre entre tous ces bouts de terre de faire des choses communes. Mais ça passe avant tout par la nécessité d'obtenir un terrain à soi, en fait, comme une hache. Donc ça, c'est aussi un autre élément extrêmement important de ce modèle. Et ensuite, il y a une distinction entre acheter une terre et puis l'usage de cette terre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on achète une terre, typiquement, il y a un terrain collectif, c'est le maraîcher qui, en titre du groupe qui l'a acheté, parce que c'est le seul qui avait le droit de l'acheter, mais l'usage est collectif. Voilà, donc il faut distinguer des formes d'acquisition de l'usage. L'autre point extrêmement important, c'est que justement, tout l'enjeu n'est pas, puisque acheter des terres, ça reste difficile, et dans ce terrain d'enquête, il se trouve qu'il n'y a pas un attachement viscéral des paysans du coin à leurs terres. Ça, c'est un autre élément, c'est qu'on peut... l'accès au foncier des populations agricoles ou alternatives, si elles tombent sur un monde agricole extrêmement attaché, y compris quand elles sont en friche, qui c'est inhabité, il y a vraiment des lieux où l'accès au foncier, il n'y a jamais de vente, et surtout pas à des étrangers. Et même quand on n'est pas étranger, ça ne se vend pas. Donc là, on est obligé de soit squatter, soit louer des terres. Là, il se trouve que dans ce petit bout de terrain d'enquête, il y a un accès facile au foncier. Les paysans n'ont pas du tout ce rapport-là à la terre. Donc ça, c'est une chance pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir avoir suffisamment de contacts avec des paysans du coin pour qu'ils vous prêtent des terres contre service et entretien de la terre. Donc il y a tout un jeu extrêmement intégré. Laurent dit qu'il passe son temps aussi au café, à écouter les conversations, à être là, à s'intégrer, à donner... Il prête tout le temps des tas de trucs à ses voisins, etc. Parce qu'il doit pérenniser l'usage des terres qu'on lui prête gracieusement. Et pour lui, c'est fondamental. Hein, pour ces deux vaches, s'il n'y a pas suffisamment de prés, de prairies, elles ne peuvent plus brouter, donc il ne peut plus avoir ces deux vaches. Donc là, il y a un vrai travail. C'est un vrai travail que de s'assurer de la possibilité d'avoir l'usage des terres, d'où le fait qu'ils préfèrent acheter, parce que ça, c'est quand même plus facile. L'autre point extrêmement intéressant et qui leur permet d'économiser énormément d'argent, c'est le fait précisément de ne pas habiter en dur, d'être dans une yourte. Et donc, ça implique des techniques, notamment pour le pâturage des vaches, c'est des vaches de plein champ, donc qui ne sont jamais en stabulation, en fait. Elles se nourrissent dans les prés et elles ne sont jamais à l'intérieur. Et quand elles sont traites dans le champ. Voilà. Donc en fait, il y a plein d'économies d'échelle qui sont faites du fait même qu'ils n'ont pas de hangar. Enfin, et qui font tout à la main, mais en même temps, ils ont besoin. C'est-à-dire que chaque fois, ils calculent en permanence s'ils devaient avoir plusieurs vaches, il faudrait qu'ils aient un hangar qui coûterait tant d'argent, qui obligerait à avoir des machines, etc. Donc ils font en permanence des calculs de moins on a de vaches, du coup on n'a pas de hangar, c'est des vaches de plein champ. Et finalement, ils arrivent à dégager quelque chose d'économiquement viable, du fait même en fait de ne pas avoir d'investissement en dur. Voilà. Et j'ai pu le constater parce que précisément, ça c'est, enfin, on pourra en reparler, mais il se trouve que dans le milieu de mon enquête, Laurent s'est fait broyer la cheville dans une machine agricole. Et donc, il a été immobilisé un an. Et donc, ça c'était au milieu de mon enquête. Et donc, je me disais, bah, dis donc, on pouvait pas. Et ça a marché, enfin, je veux dire, au sens... précisément parce qu'ils avaient un type de modèle économique extrêmement léger, ils ont pu mettre ils ont donné en gérance, enfin, à des copains leurs vaches le temps de l'accident, ils ont réduit des temps de transport, fait qu'une fournée à la place de deux, ils ont complètement réadapté toute leur structure économique avec des petites choses qui étaient en expansion qu'ils ont réduites parce que tout simplement entre les frais d'essence, le temps consacré, etc., ils pouvaient de façon très légère, faire face à un accident sans sécurité sans un accident de travail qui n'était pas compté comme un accident de travail, puisque Laurent est cotisant solidaire, il n'a pas le statut d'agriculteur. Donc, il a la sécurité sociale, mais il n'est pas rémunéré du tout. Donc, lui, c'est comme si... touche rien quoi de son accident, et elle a pu toute seule, grâce au réseau d'entraide, faire face pendant l'année où il n'a pas pu poser la cheville par terre. Voilà, donc c'est pour donner un, là je pouvais pas trouver situation plus tragique entre guillemets pour rendre compte encore plus de la viabilité de ce type d'exploitation. L'autre chose qui leur fait faire beaucoup de... qui est très, très, très important dans leur modèle économique, c'est qu'ils sont dans la polyactivité, justement. Ils ne sont pas... comme ils disent, nous, notre métier principal, c'est boulanger. Elle est auto-entrepreneuse, si elle a le statut, elle est boulangère. Elle a dû passer le CAP pour avoir le droit de vendre et de faire son pain, CAP boulangerie. Mais en fait, ils sont tous les deux boulangers. Et donc, en fait, les rentrées d'argent, c'est principalement avec la boulangerie. Et du coup, ça leur permet d'avoir une sorte de fixe, puisqu'elle fait du très, très bon pain. Donc, elle réussit à plutôt bien vendre son pain. Et du coup, l'activité de la ferme, c'est une activité principalement vivrière. Et le surplus est vendu. Vous voyez, par exemple, l'accident, ça veut dire qu'il n'y a pas de surplus. Mais il y a quand même l'activité vivrière qui permet de manger. Et donc là, pour des historiens du 19e siècle, c'est d'une banalité effrayante, ce genre de résultat, puisque l'économie paysanne était fondée sur la possibilité et l'entraide du voisinage, qui fait qu'on ne laissait jamais une veuve avec une traite de vaches sur les bras. L'ensemble du voisinage s'y mettait, c'est exactement ce qui s'est passé là. Et donc voilà, c'est des systèmes de mutualisation et aussi de réadaptation constante, parce qu'ils n'ont pas d'emprunt sur le dos, parce qu'ils n'ont pas de frais, ils ont des frais fixes très, très, très réduit, quoi. Donc, je voulais vous montrer combien ils dépensaient en eau, enfin, tout leur système, eau, électricité, etc. Mais je ne peux pas vous montrer le tableau. Donc voilà. Combien, en gros, ça leur coûte par mois, le fait de faire leur bois, etc., etc. Quoi vous dire d'autre ? L'autre élément qui contribue à la viabilité de leur modèle, c'est le fait d'incarner tous les deux, à eux deux postures différentes de ce que c'est que l'écologie radicale. Elle est vraiment pour tout faire à la main, dans une démarche beaucoup plus spirituelle. Et lui, il est tout faire d'occasion avec des machines anciennes, mais avec un peu de tracteur. Donc, ils ont des débats fréquents entre eux. Mais disons que le cumul des deux méthodes fait qu'ils passent quand même le tracteur pour les pommes de terre, et puis après, ils font à la main pour autre chose. Et donc, ils ont une sorte de c'est très intéressant, c'est des débats continus entre ces deux postures. Mais disons qu'ils sont dans un usage raisonné de techniques d'occasion, mais ce qui donc implique évidemment d'être plutôt passer un temps en mécanique assez important, puisque des vieilles machines, il faut les réparer assez souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que là, encore une fois, on n'est pas dans un modèle pur de « on se retire du monde, on fait tout à la main ». Là, il y a l'usage d'un petit tracteur, mais ils ont des copains par ailleurs qui sont leurs amis, qui eux vont tout faire avec un cheval de trait pour vous donner, ils font la traction animale, eux, ils y arrivent par le biais d'un petit tracteur qui leur permet donc un usage raisonné de techniques agricoles. Et l'autre point, c'est que précisément une des ressources qu'ils ont, c'est que ils ont décidé, comme ils sont pas, c'est pas des comment dire, des grands expérimentateurs comme pourraient l'être agronomes, enfin, qui pourraient faire des assortiments de plantes extrêmement savants, comme on peut trouver dans la permaculture, qui s'est beaucoup développée. Mais eux, c'était... on avait connaissance, mais n'avaient pas appris ce type de méthode. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent... Ils font en sorte de produire plus que ce dont ils ont besoin. Enfin, c'est comment dire, parce qu'ils savent qu'il y en aura un bout qui ira pour les escargots, l'autre bout pour les oiseaux, encore un autre bout qui sera sous l'eau. Et bref, donc ils ont résolu le problème en faisant un gros potager, par exemple. Parce qu'il se trouve qu'ils ont de l'espace et qu'ils ont ce petit tracteur qui leur permet de gagner un petit peu de temps. Voilà, donc du coup, ils ont... ça leur permet de ne pas compter, justement. Mais ils ont tout à fait conscience que c'est parce que tout le monde ne pourrait pas avoir un usage extensif de l'espace comme ils ont, puisque donc ils n'ont pas besoin de mettre au point autant de techniques pour produire sur un micro-espace et qu'ils ont... ils sont à 3, hein, un ménage sur ce que j'ai calculé, une surface de 18 hectares en ayant des vaches et des chèvres. Donc en fait, ils ont une façon des formes de dépenses sans compter. C'est pour les poules, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de poules que ce dont ils ont besoin. Mais du coup, ça évite de compter les poules. Ça évite de se poser la question. Donc ils sont vraiment dans un régime d'abondance calculé dans le sens de. Et puis ça leur permet surtout. Moi c'était assez étonnant parce que je me suis du coup je sais pas combien ils ont de poules, donc faut les compter, ce qui est très compliqué à compter un nombre de poules qui bougent tout le temps. Ensuite ils ont des ruches, mais ils savent jamais. J'ai 10-12 ruches. Mais comme lui, il n'a pas le temps de s'occuper de tout, par exemple, ils ont un rapport au temps et à l'espace qui fait qu'ils font ce qu'ils peuvent dans le temps imparti. Il sait qu'il y en a un qui meurt, mais du coup, il a un petit peu plus de ruches que ce dont il a besoin, parce que dans l'eau, il y en a qui ne vont pas forcément survivre, mais ça lui permet chaque année d'avoir suffisamment de surplus pour offrir notamment le miel nécessaire aussi aux transactions avec les voisins et avec tout le réseau d'entraide. Donc voilà, et puis l'autoconsommation personnelle de miel qui est très très forte. Donc voilà, donc ils ont un rapport, et alors en même temps, donc ça peut paraître paradoxal, ils s'arrangent aussi pour diminuer leur temps de travail, c'est-à-dire qu'ils font en sorte, alors à la fois ils produisent plus, un petit peu plus que ce dont ils ont besoin, et en même temps ils font en sorte de limiter leur production, c'est-à-dire ils pourraient sans problème vendre beaucoup plus de pain. Mais ils ont décidé qu'ils avaient besoin à peu près que de tant d'argent par mois et ils ne veulent pas travailler davantage puisque leur objectif, c'est de pouvoir entrelacer toutes leurs activités. Et donc, s'ils commencent à se spécialiser trop dans l'une, ça va être au détriment des autres. Or, le modèle fonctionne précisément parce qu'ils peuvent faire l'ensemble, les ruches, parce que les ruches, c'est un petit peu de temps en temps quand on va au potager. Ensuite, il y a les chèvres, alors ça permet d'entretenir les talus. Enfin, le poulailler, on peut récupérer aussi le fumier du poulailler pour le jardin. Et puis, les œufs, on peut vendre un peu le surplus. Enfin, tout est extrêmement entrelacé, en fait. Et s'ils commençaient à privilégier un poste sur un autre, ils perdraient en fait le bénéfice de faire l'ensemble. Voilà, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là.
On peut conclure.
Oui, ben, je vais conclure. Alors, quoi conclure ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mode de vie ? Ben, c'est qu'il y a pas déjà il y a une réduction des besoins monétaires, mais le maintien de transactions marchandes qui reste important, ne serait-ce que dans l'acquisition de terrain, le fait de vendre le pain et de vendre à bon prix. Hein, c'est pas du pain bio vendu à prix coûtant, donc il y a quand même l'idée qu'il faut gagner de l'argent. Mais c'est ça peut-être le résultat le plus important, c'est que l'observation des marchés est pour ça assez intéressante, ou des opérations d'achat, c'est qu'en fait, aucune transaction marchande n'est une pure transaction marchande, c'est-à-dire qu'elle est toujours accompagnée de discussions, d'impôts, ils achètent tout d'occasion, enfin, il y a tout ils prennent le temps. En fait, d'acheter quand ils achètent et de récupérer les choses. Parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, d'être récipiendaire de plein de dons. Parce que plein de gens, sachant qu'ils ont besoin de trucs, veulent leur donner des tas de trucs. Donc, parce qu'ils ont de l'espace, alors un tel a des machins stockés, il récupère des palettes, et puis ça peut toujours servir. Mais ça prend du temps, il faut aller les chercher, puis il faut prendre un pot, il faut discuter. Donc, en gros, le bilan, c'est qu'un misanthrope qui ne supporterait pas les relations sociales et qui adore les relations marchandes parce qu'elles sont absolument anonymes, une fois qu'on a payé, on s'en va et c'est terminé, ne survivrait pas une seconde dans ce monde où on passe son temps à finalement discuter. Voilà.
Merci Geneviève. Tu as décrit là le monde universitaire. Nous allons prendre un quart d'heure de pause pour permettre à la conférencière de se...